midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver, bon appétit si vous êtes à table. Manuel Mariani, critique gastronomique, est avec nous. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Voilà, on est dans l'entre-deux là, on est entre la galette des rois et les crêpes, puisque c'est bientôt l'épiphanie. Justement, l'épiphanie, la chandeleur, donc on parle de ces deux fêtes, l'épiphanie et la chandeleur, tout ce que vous avez rêvé de savoir sur ces deux fêtes. Alors Manu, ça vient d'où l'épiphanie ?
Alors, l'épiphanie, c'est une fête catholique aujourd'hui, mais qui a une signification différente pour les chrétiens d'Occident et pour les chrétiens d'Orient, principalement les chrétiens orthodoxes. Pour les chrétiens d'Occident, l'épiphanie, c'est l'adoration de Jésus par les rois mages, alors que pour les chrétiens d'Orient, c'est la date anniversaire du baptême du Christ. D'ailleurs, bon, épiphanie, ça vient du grec épiphaneia, qui signifie apparition ou avènement.
Voilà. Et alors, les fameux rois mages, Manu ?
Alors, autrefois, l'épiphanie, elle était aussi appelée le jour des rois, en l'honneur des rois mages, qui, selon la tradition chrétienne, seraient venus offrir des cadeaux à Jésus lors de sa naissance. D'après la Bible, les rois mages, bon, qui étaient au nombre de trois, hein, Melchior, Gaspard et Balthazar, l'épiphanie, c'est donc le jour de, c'est devenu le jour de la galette des rois.
Alors, l'épiphanie et la galette, c'est donc une fête catholique, Manu.
L'épiphanie, oui, mais à l'origine, l'origine de la galette des rois elle-même, elle est totalement païenne. Elle est apparue à l'Antiquité. À l'époque, il y avait la fête romaine des Saturnales, qui étaient des célébrations païennes de la lumière. Étymologiquement, épiphanie, ça vient du grec épiphanios, qui signifie lumineux ou éclatant. Et si on décompose le mot, on a api, qui est le superlatif sûr, et phainein, qui signifie briller. Et donc épiphanie, ça veut dire littéralement surbriller, donc briller d'un très grand éclat.
Et là aussi, il y a un rapport avec le solstice d'hiver, Manu, comme vous nous l'aviez indiqué dans l'émission qui concerne Noël.
Oui, exactement. Dans le calendrier solaire, avant de s'inscrire dans le prolongement chrétien de Noël, l'épiphanie, elle s'inscrit d'abord dans le cycle qui commence au solstice d'hiver, donc le 22 décembre. Cette nuit du solstice, qui est la plus longue de l'année, elle annonce le rallongement des jours et par extension, la renaissance de la lumière, qui est censée être à l'origine de toutes choses hein, chez les Romains, notamment dans le calendrier agricole. Hein. Rappelez-vous, on avait parlé du calendrier agraire hein, qui en fait régissait un petit peu les fêtes de fin d'année. Et donc on célèbre l'épiphanie qui est la manifestation de la lumière.
Bon, alors Manu, on compte sur vous pour nous expliquer le principe de cette fête romaine et donc païenne.
Oui, alors à l'Antiquité, donc chaque année, au moment du solstice d'hiver, on fêtait les Saturnales en préparant un grand gâteau dans lequel on glissait une fève. Alors pas les fèves en porcelaine ou en métal, hein, comme on les connaît aujourd'hui, mais une vraie fève hein, séchée. On distribue alors un morceau de ce gâteau à chaque esclave et à chaque servant ou servante de la maison. Et celui qui récupérait la fève, il était traité comme un roi pendant une journée.
Donc c'était une vraie fève à l'origine. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la fève alors ?
Oui, mais ça on va y venir. Mais bon, cette personne qui trouvait la fève ne prenait quand même pas la place du maître de maison. Mais pendant une journée, il pouvait commander tout ce qui lui plaisait à manger. Et puis les autres esclaves et servants de la maison devaient lui servir sans protester. Et c'est seulement beaucoup plus tard que l'Église s'est récupéré un petit peu cette fête en remplaçant ce roi d'un jour par les trois mages, et donc l'Église a collé cette fête des rois mages le jour de l'Épiphanie.
Ouais, j'étais en Pologne et c'était férié.
Oui,
dans pas mal de pays. C'est un jour férié, le jour de l'Épiphanie en Pologne. Alors pourquoi est-ce qu'on mange une galette aujourd'hui, Manu ?
Alors tout simplement, là je reviens encore aux Romains, Philippe, donc et leur fête païenne, tout simplement parce que la galette elle est ronde et elle est dorée, et donc elle symbolisait le soleil, hein, nouveau clin d'œil au solstice d'hiver et au retour du soleil. Alors selon les régions, la galette des rois, c'est un gâteau rond en pâte feuilletée, fourré au nom, soit d'une crème d'amande, soit d'une frangipane, ou bien une couronne garnie de fruits confits à l'intérieur duquel on a placé une fève. Et celui qui découvre la fève, il est le roi ou la reine. Hein, puis selon la tradition, vous le savez, Philippe, hein, parce qu'on y est tous passés sous la table, comme dirait l'autre, le plus jeune enfant de la famille se met sous la table et il doit désigner chaque part et dire à quel convive elle revient hein, pour faire jouer un petit peu le hasard.
D'ailleurs, longtemps dans le sud de la France, on n'avait pas la galette et la frangipane.
Non, c'était la couronne.
C'était vraiment la brioche.
Oui, hein, oui.
Une couronne, avec ou sans fruits
une
confits.
Une couronne briochée, ça ressemble à un gros savarin. Et effectivement, comme vous le dites, c'est avec ou sans fruits confits. Ça dépend des régions du sud.
Hein, avec du sucre.
Du sucre, oui, du gros sucre dessus.
À partir de quand, Manu, on a remplacé ce légume sec donc par une fève en porcelaine ?
Alors, ça, c'est beaucoup plus récent. Ça vient d'Allemagne. Et c'est seulement en 1875 que cette espèce de haricot sec a été remplacé par une fève en porcelaine de Saxe, hein, à l'origine. Mmh. Hein, donc, ça, c'est la version moderne qu'on connaît aujourd'hui.
Bon, c'est une fête incontournable en France, aujourd'hui ?
Alors, oui, parce qu'en 2014, il y a eu un sondage qui a été réalisé en France qui a révélé que 97% des Français fêtaient l'Épiphanie, donc pratiquement tous. Hein. Et puis, il y a un autre sondage Opinionway qui parle quant à lui de 85%, donc on est quand même proche.
Ça veut dire quoi, fêter l'Épiphanie ? Est-ce que ça veut dire acheter une galette ou faire vraiment la fête de l'Épiphanie, c'est ça ?
Non. C'est tirer les rois. Hein. Tirer les rois, donc on parle du côté païen de la fête et pas de fêter l'Épiphanie au sens religieux du terme. Hein. Là, on parle vraiment de la tradition de la galette plus que de la fête religieuse.
Hein. Bon, il y a d'autres chiffres, Manu ?
Oui, alors par exemple, 70% mangent une galette fourrée à la crème d'amande ou à la frangipane. 11% mangent un gâteau des rois, donc principalement dans le sud. Là, on en a parlé, donc cette brioche de forme ronde avec un trou au milieu dans lequel on glisse parfois des fruits confits. 8% une galette des rois à la pomme, hein, donc c'est une galette feuilletée avec de la compote de pomme à l'intérieur. Alors 9%, hein, donc pratiquement une famille sur 10, consomme plus de 5 galettes hein, au moment de la galette. Alors j'imagine qu'il y a la galette avec la famille, la galette avec les beaux-parents, la galette au bureau. Hein, si on ajoute tout ça, on arrive rapidement à 5 galettes. Puis de toute façon, c'est bon la galette, on aime ça, hein, Philippe. Alors, ça c'est une info aussi, Philippe. Il y a 68% des familles qui trichent pour que ce soit les plus jeunes qui récupèrent la fève.
Alors cette tradition, on la retrouve aussi dans d'autres pays ?
Oui, il y a des traditions sympathiques. Alors, souvent un peu plus religieuses, puis avec des variantes. En Espagne ou au Portugal, on appelle ça Bolo Rey. Et puis dans les pays d'Amérique latine, on fête le Día de los Reyes Magos. Donc là, on le rattache vraiment à la religion, hein, puisque c'est les rois mages. Et d'ailleurs, Espagne, Portugal, Amérique latine, ça c'est un jour férié. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, hein, dans la tradition plus latine, qu'on donne les cadeaux aux enfants plutôt qu'à Noël. Hein. Noël, on offre plutôt une orange ou un tout petit cadeau symbolique aux enfants. Mais c'est au moment de la galette, hein, le Día de los Reyes Magos, le jour des rois mages, qu'on offre les cadeaux de Noël. En Belgique ou Pays-Bas, on mange également une galette à la pâte d'amande, à la crème d'amande ou à la frangipane. Le plus jeune se cache sous la table, comme en France, pour désigner les parts. Hein. Et le roi du jour choisit son roi ou sa reine, évidemment. Et puis, là, en Belgique et aux Pays-Bas, il y a une tradition complémentaire, c'est que pendant la journée, les enfants, ils parcourent les rues en chantant une chanson qui s'appelle la chanson de l'étoile. Donc là encore, on parle d'un astre brillant, vous voyez, à chaque fois, on y revient. Hein. Et ils font du porte-à-porte pour recevoir des mandarines et des bonbons, un petit peu comme à Halloween. Et en Wallonie, région belge, c'est à ce moment-là qu'on commence la préparation du carnaval. Hein, puisqu'il y a un grand carnaval à cette période tous les ans en Wallonie. Alors maintenant, on va traverser l'Atlantique. C'est dans le sud des États-Unis, la tradition de tirer les rois existe sous le nom de King Cake, donc le gâteau du roi. Alors les King Cake, on les mange pendant toute la période qui va de l'Épiphanie jusqu'au carnaval de Mardi Gras. Donc là, on aime les gâteaux aux États-Unis, on fait un peu durer le plaisir. Où est-ce que je peux vous emmener encore, Philippe ? En Grèce et à Chypre, par exemple. Là, il n'y a pas de galette des rois à proprement parler, mais il y a une vassilopita. Alors, pita, ça vous rappelle quelque chose, Philippe, hein, le fameux pain. Et donc, la vassilopita, c'est une galette, une grande pita, un peu sucrée, en l'honneur de Saint Basile de Césarée. Alors, cette galette, on la prépare la veille du Nouvel An. Et ça n'est qu'à partir du 1er janvier, jour anniversaire du Saint Basile de Césarée, qu'on mange cette galette, qu'on la coupe. On y dissimule en général une pièce en or pour mimer une disposition que fit adopter ce saint pour répartir de manière égale la rançon non utilisée pour stopper le siège de Césarée. La fève, c'est une pièce. Et voilà, enfin, toutefois, à l'origine de la tradition byzantine remonte très certainement au Chronia de la Grèce antique et au Saturnal de Rome, on y revient, comme l'avait démontré une anthropologue qui s'appelait Margaret Asluck. J'ai du mal à le dire, c'est pas assez latin comme nom pour moi.
Bien, Manu, faut revoir votre latin. Tout à l'heure, vous avez parlé de la crème d'amande ou de frangipane. C'est pas la même chose ?
Alors non, ce sont deux choses différentes. La frangipane, c'est une crème d'amande complétée de crème pâtissière. Hein, donc, il y a environ un tiers de crème pâtissière et deux tiers de crème d'amande. En revanche, la crème d'amande, elle est réalisée sans crème pâtissière.
Et pourquoi on appelle ça la frangipane ?
Alors ça, je ne sais pas. J'ai recherché un petit peu le nom, mais ça, je l'ai pas trouvé. Mais bon, c'est une appellation culinaire assez moderne.
Hein. Ça vient de l'italien frangipane.
Ah, alors, dites-nous tout.
Et ben, ça veut dire crème aux amandes en crème italien. Frangipane.
Vous avez bien travaillé, Philippe.
Oh, je suis votre élève.
Vous êtes venu tôt ce matin pour préparer l'émission.
C'est ça. j'ai fait toutes les boulangeries de la rue pour goûter les galettes.
Vous avez fait un sondage.
Et là, je suis parfait. Alors, comment on l'a fait, cette crème d'amande ?
Alors, pour une crème d'amande, bah, il faut des œufs, du beurre, du sucre et de la poudre d'amande. Alors, vous pouvez également rajouter un arôme. Alors, souvent on met du rhum. Enfin, si vous ne consommez pas d'alcool, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger. C'est très, très bon avec, hein, l'amande et la fleur d'oranger. Ça va très bien ensemble. Là, alors la crème d'amande, c'est ce qu'on appelle un temps pour temps. Donc c'est facile, hein, en proportion égale. Donc temps pour temps, c'est quand on a plusieurs ingrédients tous en proportion égale, comme un 4 quarts par exemple. Donc la crème d'amande, c'est la même quantité de beurre, de sucre et de poudre d'amande. Voilà. Alors pour la frangipane, c'est poudre d'amande, sucre, œuf, beurre, lait, farine. Encore du sucre, hein, pour faire la crème pâtissière. Vous pouvez mettre un arôme, hein, comme de la vanille, fleur d'oranger encore, hein, je le rappelle, et puis un jaune d'œuf. Donc en fait, vous faites simplement une crème d'amande, je vais vous expliquer comment, et vous rajoutez un tiers de crème pâtissière. Alors, je vais vous donner même une recette de galette des rois, que vous ferez selon votre goût, soit à la crème d'amande, soit à la crème à la frangipane. D'ailleurs, écoutez bien un petit peu l'émission, parce qu'on va vous faire, on va vous permettre de gagner des cadeaux tout à l'heure. Donc, écoutez bien tout ce qu'on vous dit. Alors, pour faire une galette des rois, déjà, la base à la crème d'amande. Il vous faut 2 œufs, 110 g de beurre pommade. Alors, le beurre pommade, c'est du beurre qui est à température ambiante, hein, pour qu'on puisse le malaxer. 130 g, donc vous le sortez quelques heures avant du frigo. 130 g de sucre en poudre, 140 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de rhum, ou si vous ne consommez pas d'alcool, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Et puis, il vous faut 2 disques de pâte feuilletée pur beurre. Alors, la pâte feuilletée, c'est compliqué à faire.
Faut faire des tours.
C'est ça, ouais. Il faut faire 6 à 8, voire 10 tours, selon le feuilletage qu'on souhaite. Il y a aussi des feuilletages inversés qui sont plus simples, mais je vous dis franchement, il vaut mieux une bonne pâte feuilletée toute prête qu'une mauvaise pâte feuilletée maison, hein, Philippe. C'est quand même compliqué à faire et ça demande vraiment un tour de main. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est soit de la commander, vous pouvez acheter de la pâte feuilletée chez votre boulanger, peu de gens le savent.
On peut acheter le pâton ?
Oui, vous pouvez acheter votre pâton et vous pouvez acheter des fèves aussi chez votre boulanger. Hein, y a même des belles collections de fèves qui sont en vente chez certains.
Compte tenu du prix des galettes des rois, il y a de plus en plus de gens qui les font eux-mêmes.
Hein. Oui, absolument. Et vous allez voir que c'est hyper facile. Je vais vous donner une recette super simple. Et donc, encore plus simple si effectivement vous achetez des disques de pâte feuilletée tout prêt dans votre supermarché. Vérifiez quand même une chose, c'est très important, c'est qu'elle soit pure beurre. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits avec de la margarine ou moitié margarine, moitié beurre. Prenez des pâtes feuilletées de bonne qualité. Prenez des pâtes feuilletées pure beurre, c'est meilleur. Et pour le goût et pour le fait de gonfler, hein, pour que la pâte feuilletée monte.
Il n'y a pas d'alcool dans les pâtes vendent.
Non, du tout.
Non,
non, une pâte feuilletée, une vraie pâte feuilletée, il y a de la farine et du beurre, et puis un petit peu d'eau. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, 2 œufs, 110 g de beurre pommade, donc du beurre mou, 130 g de sucre en poudre, 140 g de poudre à l'amande et une cuillère à soupe de rhum ou de fleur d'oranger. Et donc, c'est les 2 disques de pâte feuilletée. De toute façon, on vous remettra tout, hein, sur la page du podcast. Alors, dans un saladier, c'est hyper simple. Vous mélangez le sucre, le beurre pommade, les 2 œufs et la poudre d'amande. Et vous mélangez tout jusqu'à ce que ça prenne une consistance uniforme. Vous ajoutez soit le rhum, soit la fleur d'oranger. Et puis, vous versez cet appareil dans une poche à douille. Alors, si vous n'avez pas de poche à douille, Philippe, vous prenez, vous savez, un petit sac congélation ou un sac plastique. Vérifiez que ce soit un sac plastique alimentaire quand même. vous tournez pour faire comme une poche à douille, et puis vous coupez avec des ciseaux le bout, et puis vous étalez vous faites un espèce d'escargot en partant du centre,
ouais.
et vous déroulez ça sur votre ronde, sur votre premier disque de pâte feuilletée. Attention, n'allez pas jusqu'au bord parce qu'il faut garder une partie sans crème d'amande pour pouvoir souder les bords. Voilà, donc vous répartissez la crème sur votre pâte feuilletée, donc vous faites un disque un petit peu plus petit. Vous plongez la fève quelque part, hein. N'oubliez pas de la mettre parce que sinon on va faire un trou dedans, on saura où est la fève. Et puis vous recouvrez d'un deuxième rond de pâte feuilletée en soudant les bords avec de l'œuf battu. Et c'est très simple, vous enfournez, vous cuisinez 20 à 30 minutes, si vous l'aimez plus dorée, moins dorée, plus ou moins croustillante, 20 à 30 minutes à 200 degrés, thermostat 6-7, et là, vous obtenez une super galette des rois, vraiment aussi bonne que chez votre boulanger, souvent chez le boulanger, elles ne sont pas faites maison, c'est des surgelés réchauffés
ça,
sur
c'est
place.
Ça, c'est ouais. Un autre sujet.
C'est un autre sujet,
ça se voit parce que le feuilletage s'écroule souvent d'ailleurs.
Voilà, absolument, et puis il est très, très, très cartonneux, très pâteux. Hein. Donc n'hésitez pas à la faire à la maison, c'est quand même super économique de la faire à la maison, c'est souvent meilleur. Sauf si, évidemment, vous avez un super pâtissier à côté de chez vous. Hein. On en connaît quelques-uns. Et puis, c'est sympa, vous pouvez le faire avec les enfants. Hein. Vous les envoyez juste jouer dans leur chambre au moment de mettre la fève. Mais c'est très sympa pour les enfants d'avoir participé à la confection d'une galette des rois. C'est vraiment un truc agréable, c'est très, très sympa.
Alors après, la frangipane, c'est comme tout. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. Alors,
c'est pour ça, ouais. Vous avez le choix. Hein.
Alors, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de galettes qui arrivent fourrées au chocolat.
Voilà, alors soit la crème d'amande, soit la frangipane. Hein. Donc, je le rappelle, frangipane, c'est avec crème pâtissière ajoutée et crème d'amande, c'est uniquement la crème d'amande. Mais sinon, vous pouvez effectivement la fourrer avec de la confiture. Vous pouvez la fourrer avec une compote de pommes. La compote de pommes, d'ailleurs, c'est une des galettes traditionnelles comme on mange parfois en province, dans certaines régions. Il y a vraiment autant de recettes qu'on peut avoir d'imagination, Philippe. Hein. Alors, je ne sais pas vous, quelle est votre galette préférée ?
J'aime bien en manger au moins une fois par an une bonne à la frangipane, une vraie, oui. une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, on me dit qu'il y a plusieurs théories sur l'origine de la recette de la frangipane. Alors, on verra tout à l'heure. Bien sûr, vous pourrez intervenir et composer le numéro du standard 01 53 48 3000. Hein.
Oui, exactement, Philippe. Et on vous permettra, d'ailleurs, on vous posera une question hein, en dernière partie d'émission. On vous proposera de gagner un cadeau. Et en plus, vous pourrez même choisir votre cadeau aujourd'hui. Hein. On a des trucs différents, très sympas.
Dessous de table jusqu'à 13h, ce Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Vous avez le choix, hein, c'est galette ou chandeleur et crêpes. Donc aujourd'hui, on fera peut-être des oreillettes si Manuel Mariani est de bonne humeur. Manu, la chandeleur, donc ça vient d'où ?
Alors, à l'origine, la chandeleur, ça s'appelait pas la chandeleur, mais la chandeleuse. Ça vient du mot chandelle, hein, ça vient d'une expression latine, encore. Hein, les latins sont à l'origine de pas mal de choses. C'est la festa candelarum, hein, qui signifie fête des chandelles. Parce que la bénédiction des cierges se déroulait ce jour-là. Alors, pas les cierges catholiques, parce que les Romains aussi utilisaient des cierges pour rendre hommage à leurs dieux romains, Saturne, Uranus, etc. C'était la fête des dieux romains pour lesquels on allumait des bougies, donc des cierges, des chandelles. Donc, la chandeleur, fête des chandelles, c'est une ancienne fête païenne et latine. Qui est devenu ensuite, alors là encore l'église s'est récupéré le truc, hein, ça arrive souvent, Noël, l'Épiphanie, la Chandeleur, c'est devenu une fête religieuse chrétienne qui correspond à la présentation du Christ au temple et à sa recommandescence par Siméon comme lumière d'Israël.
Bon, alors pourquoi on fait des crêpes ?
Alors, même motif, même punition, Philippe. Les chandelles, c'est de la lumière et donc le soleil. Et la forme ronde et la couleur dorée des crêpes, ça rappelle donc cet astre brillant qui était si cher aux Romains. Donc, encore un rapport avec le solstice d'hiver, à partir duquel les jours s'allongent de plus en plus vite. Et donc, c'est également à cette époque de l'année que les semailles d'hiver commençaient. On servait donc de la farine excédentaire pour confectionner des crêpes. Et si on avait un excédent de farine, c'était donc un symbole de prospérité pour l'année à venir. Voilà, alors la fête après, elle a pris un caractère différent après l'apparition de l'image de Notre-Dame sur l'île de Tenerife. En 1497, le vainqueur de Tenerife, Alfonso Fernández de Lugo, a célébré la première fête de la Chandeleur dédiée à la Vierge. Donc c'est à ce moment-là que l'Église récupère cette fête à son compte. Puis il y a une autre coutume, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça se fait beaucoup dans les familles de province, hein, au moment de la Chandeleur, puisque ça est censé représenter l'opulence pour l'année à venir avec ses excédents de farine. On mettait une pièce d'or, on faisait sauter donc une crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Et c'était synonyme de bonheur et de prospérité pour la suite. Ou sinon, dans d'autres régions, on doit faire sauter la crêpe en tenant dans la main cette pièce d'or, en même temps que le manche de la crêpière. Alors, je ne sais pas, vous, quelle tradition vous connaissez, Philippe ?
Moi, je connais l'histoire où on mettait la crêpe et la pièce d'or sur l'armoire.
Ah, sur l'armoire, d'accord. Bah. Oui, ça, c'est pour la garder toute l'année. Voilà. Comme ça, puis en plus, ça donne à manger un petit peu aux souris. Hein. Alors voilà, il y a aussi des traditions comme quoi cette pièce d'or, elle était enroulée dans une crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille, ouais, jusque dans la chambre. Et là, effectivement, on la mettait en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. Voilà. Alors avant la conquête de Tenerife, les aborigènes Ganche célébraient une fête autour de l'image de la Vierge lors de la fête de Beniesmen au mois d'août. Là, par contre, hein, c'était la fête de la récolte qui marquait le début de l'année. Et là encore, on fêtait l'opulence. Hein, donc il y a toujours un rapport aussi avec la chance, l'opulence, le bonheur, et puis les poches bien remplies, puis un petit peu l'estomac aussi puisqu'on mange, hein. Enfin voilà, donc c'est pas mal de traditions différentes, hein. Il y a on parle de fécondité aussi, hein, à la fin du 5e siècle, on dit que les crêpes sont synonymes de fécondité. Alors est-ce que c'est parce que la crêpe est ronde et symbolise le ventre rond d'une future maman? Bon, il y a plein de légendes et puis de d'histoires, hein, autour de ça. Voilà. Alors on dit aussi que la première crêpe dans certaines familles, la première crêpe confectionnée, qui est souvent ratée d'ailleurs, hein, Philippe. Hein,
c'est vrai qu'elle est jamais folichonne, la première crêpe.
Mais on vous expliquera comment ne pas rater les crêpes dans un instant. Donc on dit que la première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire et que les prochaines. Alors là, c'est pas sur l'armoire et ça permettra d'avoir des récoltes abondantes. Voilà. Et puis on dit aussi que quand on met une crêpe au sommet d'une armoire, si la crêpe ne moisit pas, ça éloignera la misère et le dénuement, Philippe. Voilà. Hein, alors, écoutez, on va regarder des petites traditions un petit peu hors de France maintenant. Au Luxembourg, par exemple, il y avait une procession au flambeau, donc encore des chandelles, hein, vous voyez. Et c'est une fête qui, alors, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est le Lichtmessdag, hein, qui est une fête au flambeau, au centre de laquelle se trouvent les enfants, là aussi. Hein. Alors, en petit groupe, ils parcourent les rues dans l'après-midi ou la soirée du 2 février. Ils tiennent à la main une baguette allumée ou un lampion pour chanter devant chaque maison, devant chaque magasin. Il y a des chansons traditionnelles dont je vous donne pas le nom parce que là, c'est encore pire à prononcer. Hein. Et puis, ils attendent de recevoir en échange une récompense, soit des sucreries, des petites pièces. Voilà, on leur donnait aussi des petits pois, des biscuits ou des morceaux de lard, vous voyez. Donc c'est une fête un peu particulière et ça rappelle cette fête dont on parlait tout à l'heure en Wallonie, hein, avec les enfants qui
allaient chercher, voilà, de maison en maison,
un petit peu comme à Halloween.
Au Mexique, Manu.
Alors au Mexique, il est tradition de commémorer la présentation de l'enfant Jésus au temple le 2 février. Donc là, au Mexique, hein, comme je vous l'ai dit, Amérique latine, Espagne, Portugal, là c'est vraiment très religieux. Cette célébration qui est très importante pour les Mexicains, elle passe par la levée de l'enfant, la levantada del niño, de la crèche, hein, qui est suivie par la tradition de l'habillage et de l'adoration de l'enfant Jésus et qui est accompagnée de chants comme Ya vienen los Reyes Magos. Donc ça, c'est
on en revient là.
Voilà, les rois mages à nouveau. Voilà. Et puis ensuite, on fait un repas familial autour de tamales. Et les tamales, Philippe, c'est des crêpes. Ah bon, les crêpes voilà. mexicaines, hein, c'est des grandes crêpes, hein, dans, qu'on fourre et qu'on garnit, qu'on mange. Hein. Voilà, donc ça c'est une fête qui est étroitement liée à l'Épiphanie. La fève au Mexique s'appelle le muñeco. Hein, le muñeco, qu'est-ce que ça veut dire muñeco? Ça vient de l'arabe, Monica. C'est une poupée.
Ah oui.
En arabe. Et donc, muñeco, c'est une petite poupée, qu'on va dire une petite figurine, en fait. Hein. Voilà. Et donc, ça, on met ça souvent dans une brioche. Hein. Les tamales, c'est plus pour le repas qui suit après, mais on met ça dans une brioche. Voilà. Alors, le jour de la Chandeleur, en Amérique latine, on s'habille bien. Hein. On s'habille en dimanche, comme on dit. Hein. On s'habille élégamment, surtout les enfants. Et voilà, donc ça c'est une tradition qui se transmet de génération aux générations. Et voilà pour le Mexique. Que vous dire d'autre? Je peux vous parler aux États-Unis, au Canada, Philippe?
Oui, par exemple, pas très loin.
Oui, pas très très loin. On reste sur le continent américain. Donc là, la célébration de la Chandeleur, elle a été remplacée par le jour de la marmotte, le Groundhog Day. J'ai du mal à prononcer ça, hein, encore. Donc c'est un événement qui est célébré le jour de la Chandeleur, donc le 2 février. Et ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre, parce que le temps est nuageux,
c'est facile à faire. Hein.
Ça veut dire, ah oui, bien sûr, ça veut dire que l'hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre, parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée, elle fera demi-tour, elle retournera hiberner un petit peu plus. Ça veut dire que l'hiver continuera 6 semaines supplémentaires. Donc ça, c'est effectivement original. Par contre, dans les régions francophones du Canada, là, on fête la Chandeleur un petit peu plus de la même manière que nous, Philippe.
J'essaie de voir quelle est la traduction de Groundhog. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Bah, moi, je dirais plutôt Groundhog, non?
Je ne sais pas, mais en tout cas, Groundhog, je ne...
Parce que ça veut dire chien des prairies, ça va bien avec la marmotte, non? Groundhog.
Ouais, ça a l'air un peu mieux, quand même. Ouais. Non, ça, c'est pas mieux, Manu. Hein.
Bon, sinon, il y a le Hound Dog, hein, qui est la chanson d'Elvis Presley. Hein.
Très bien. Alors, vous allez nous la chanter et après, vous nous donnez une recette de crêpes.
De crêpes, oui. Alors, je vais vous donner une recette de crêpes facile.
Il y a rien de plus facile. Je crois que c'est le mot numéro un tapé sur Google tous les ans.
Oui, recette
de pâte à crêpes.
C'est la recette la plus recherchée, avec celle de la mayonnaise et puis avec la cuisson des œufs aussi. Hein, œufs durs, mollets, œufs à la coque, etc. Tout ça, c'est des petits trucs et astuces qui sont extrêmement recherchés sur Google. Et puis l'ironie, Philippe, c'est que vous avez 20 millions de résultats à chaque fois et que vous n'avez pas deux sites qui vous donnent la même recette. Donc c'est un petit peu amusant. Alors, pour faire des crêpes très facilement, là aussi, je vous mettrai toutes les proportions et le déroulement sur la page du podcast. Il vous faut 600 grammes de farine, 1 litre de lait. Mmh. Et ça, c'est très important, Philippe. Hein. C'est ça qui va faire que vous aurez des crêpes moelleuses qui vont cuire facilement et qui accrocheront moins à la poêle. Il faut 50 centilitres de bière. Alors, si vous ne consommez pas d'alcool, ça marche aussi avec la bière sans alcool. Hein, parce qu'il y a des bières sans alcool, 0% maintenant, qui sont des vraies bières, des vraies bières avec zéro alcool, parce que il y avait une polémique au sujet des bières sans alcool. Il y en avait
très peu.
Oui, il y avait entre 0,8 et 0,9%, etc. Bon, ça reste quand même moins que le vinaigre, mais il y avait quand même un petit peu d'alcool dedans. Donc, pour les puristes, vous prenez de la bière sans alcool. Je crois que c'est Heineken, hein, on va les citer, qui fait ça. C'est une bière qui est un vrai 0%. Alors pourquoi on peut mettre de la bière sans alcool? Vous allez me dire, non, vous me l'avez pas dit.
Non, je ne voulais pas. Non,
pourquoi de la bière sans alcool? Parce que ce qui est important, c'est pas l'alcool. L'alcool, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la levure qu'il y a dans la bière. Hein, il y a une levure naturelle dans la bière.
Et pourquoi on met pas alors un sachet de levure dans ces cas-là?
Alors parce que là, c'est de la levure concentrée, ça va trop gonfler. Puis c'est pas le même type de levure. Il y a pas une levure, il y a des levures. C'est comme les champignons. Une levure, c'est une espèce de champignon. Et il y a pas un champignon, il y a des champignons.
J'ai dit quand on fait des blinis, on met de la levure.
On met de la levure, mais là on fait des mini pancakes, hein, voilà. Les blinis, faut que ça gonfle. Là, si vous voulez vraiment des crêpes
ou des crêpes mille trous.
Oui, les mille trous. Alors donc pour ces crêpes, hein, il vous faut 600 grammes de farine, 1 litre de lait, 50 centilitres de bière, éventuellement sans alcool, 6 œufs, 150 grammes de beurre clarifié. Alors le beurre clarifié, c'est du beurre qu'on fait fondre à feu très 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 doux dans une casserole et on enlève le petit lait qui est sur le dessus. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça avec du beurre non clarifié, le petit lait va brûler dans la poêle et vos crêpes vont cuire trop vite et vont brûler un petit peu, puis c'est moins bon. Ou sinon vous pouvez mettre de l'huile si vous avez la flemme de faire du beurre clarifié, mais le goût de l'huile, que ce soit arachide, tournesol, c'est quand même moins sympa avec les crêpes. Et puis 70 grammes de sucre en poudre et 2 sachets de sucre vanillé. Si vous n'aimez pas la vanille, vous mettez 80 grammes de sucre et pas de sucre vanillé. Alors, d'ailleurs, dans un instant, vous pourrez nous appeler pour nous donner vos trucs, si vous voulez nous donner vos idées de fourrage de crêpes. Vous nous appelez 01 53 48 3000 si vous mettez de la banane, du chocolat. Et puis en plus, la recette qui nous semblera la plus originale pourra gagner. Un livre, on pourra un cadeau. Il n'y a pas que des livres d'ailleurs dans les cadeaux aujourd'hui. Et puis on vous posera une question également. 01 53 48 3000. Alors, donc, avec tous ces ingrédients, dans un cul de poule ou dans un saladier, vous versez la farine, vous faites un petit puits au milieu et vous versez le lait en plusieurs fois en mélangeant avec le bout des doigts. Et alors, une petite astuce encore, hein, si vous n'aimez pas que la pâte colle aux doigts, ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit peu d'huile sur vos doigts, une huile neutre, hein, pas d'huile d'olive, sinon ça risque de donner du goût, mais vous enduisez vos mains avec un peu d'huile de tournesol ou un peu d'huile d'arachide et vous en servez pour mélanger, et comme ça va moins coller à vos doigts. Donc vous faites ce puits avec la farine, vous versez le lait petit à petit, et puis vous mélangez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite vous ajoutez la bière sans alcool, vous mélangez de nouveau, attention hein, la bière sans alcool avec la levure, vous le mettez dans un deuxième temps une fois que vous avez quelque chose de lisse et d'uniforme sans grumeaux, hein. Ensuite vous battez les œufs et vous les incorporez à la pâte avec le beurre clarifié ou avec un petit peu d'huile, mais comme je le dis, c'est moins bon. Ensuite, vous versez le sucre et vous mélangez avec un fouet jusqu'à ce que vous ayez un mélange bien homogène. Comme il y a un petit peu de levure dans la bière sans alcool, la pâte, faut la laisser reposer. Plus vous allez la laisser reposer, plus la levure contenue dans la bière sans alcool va donner de l'air dans la pâte, et plus vos crêpes seront légères et agréables. Alors après ce temps de repos, vous mélangez à nouveau, hein, parce qu'il peut y avoir des petits grumeaux qui se reforment, et vous faites cuire vos crêpes dans une poêle à crêpes, donc au beurre clarifié. Alors la solution simple, hein, vous faites fondre du beurre. Vous enlevez donc la petite pellicule de petit lait qu'il y a au-dessus, et vous avez là du beurre clarifié, et vous prenez vous faites un petit tampon de sopalin, vous trempez ça dans le beurre, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire chauffer votre poêle, et une fois que votre poêle est chaude, vous allez la tapisser, hein, la lustrer avec ce tampon. Et là, vous allez voir, vous ne raterez pas vos crêpes. Hein. Je vous en dis un petit peu plus après la pause, Philippe. Si
voilà, on parle de crêpes et puis vous êtes les bienvenus pour nous donner vos meilleures recettes de crêpes. Dites-nous comment vous les faites, hein, quelles sont les meilleures recettes de fourrage que vous mettez dans de garniture que vous mettez dans vos crêpes. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Un plat qui met tout le monde d'accord, ce sont les crêpes. Je crois que tout le monde aime les crêpes. Oui. Toutes les générations aiment les crêpes. Bon, on ne va pas réinventer la version Nutella banane, qui est peut-être la crêpe la meilleure du monde, mais je ne sais pas quelle est, à vous, votre crêpe préférée. Vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. Donnez-nous la recette qui, voilà, à tous les coups, vos enfants l'adorent. Et d'ailleurs, vous pouvez gagner celui qui nous donnera la meilleure recette de crêpes pour repartir avec des livres, hein, Manu.
Ouais, ou je peux même poser une petite question, Philippe, pour faire gagner.
Poser une petite question. Allez, Manu. Alors ça, allez, ça m'étonne
comme ça,
de vous.
Comme ça, tout
petite
le monde
question
peut participer.
De venant de vous.
Non, une question simple. On a donné la réponse à plusieurs reprises dans l'émission, Philippe. Hein, vous m'avez même posé la question. Quelle est la différence entre la crème d'amande et la frangipane? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 01 53 48 3000 et vous pourrez gagner un très joli cadeau. Alors, en plus, aujourd'hui, le cadeau, c'est au choix. Vous pourrez gagner soit un livre qui s'appelle Le Répertoire des sauces, qui a été écrit par, co-écrit par Éric Trochon, qui est un meilleur ouvrier de France. Et là, vous avez vraiment les sauces françaises, étrangères, modernes, anciennes, fusion, tout ce, puis des sauces salées ou sucrées. Donc c'est un super livre que je vous recommande. Ou bien vous pourrez gagner le DVD d'un film documentaire de Vérène Frediani qui s'appelle « À la recherche des femmes chefs » où on apprend plein de choses sur la cuisine. Ou bien vous pourrez gagner l'édition 2020 du Petit Futé Paris Gourmand avec plein d'adresses de restaurants, de boutiques gourmandes.
C'est Salia HD qui a fait le...
C'est le livre de Salia HD. On vous le fera même dédicacer par Salia. Donc si vous voulez gagner l'un de ces cadeaux,
voilà, vous Salia qui vous emmène en Algérie demain matin à 10h et c'est l'Algérie méconnue.
Absolument.
Que nous visiterons.
Allez, et puis on peut reciter d'ailleurs le petit futé Alger qui est écrit par Salia. Donc quelle est la différence entre la frangipane et la crème d'amande? Vous nous appelez 01 53 48 3000, on prendra un appel en fin d'émission. Alors, je vous avais parlé, Philippe, juste avant la pause, de la manière de ne pas rater ses crêpes. Hein, parce que, on l'a dit, la première crêpe, elle est toujours un peu ratée, Philippe, et même parfois les suivantes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est lustrer. Alors, en termes techniques, on appelle ça lustrer ou chemiser sa poêle. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez passer de l'encaustique sur votre poêle, ça ne veut pas dire non plus que vous allez la lustrer avec une cireuse, mais il faut que votre poêle, en fait, le métal devienne... Alors, moi, il y a des poêles anti-adhésives, mais enfin bon, on sait que les revêtements anti-adhésifs ne sont pas très bons pour la santé, puis en plus, ils s'abîment souvent au bout d'un moment. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas la chose idéale pour la répartition de la chaleur. La meilleure matière pour faire des crêpes, donc on appelle ça une crêpière, c'est de la fonte d'aluminium. Mais la fonte d'aluminium, pour ne pas qu'elle attache, il faut donc la chemiser ou la lustrer. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites un petit mélange d'huile de tournesol, une huile la plus neutre possible au goût, huile de tournesol ou colza, elles sont assez neutres, et du beurre clarifié, ou du beurre fondu si vous avez la flemme. Mais de toute façon, une fois qu'il est fondu, c'est facile à clarifier. Vous trempez un petit tampon de sopalin dedans, vous faites une boule avec, vous le trempez dedans, et puis sur la poêle chaude que vous retirez du feu, vous allez tourner dessus longtemps, 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 jusqu'à ce que vous ayez une espèce de pellicule un peu brillante qui attache à la poêle. Ça ne doit pas être forcément gras sous le doigt, mais vous allez voir que la surface de votre poêle va devenir très brillante. Et là, quand vous allez commencer vos crêpes, Philippe, elles n'attacheront pas et elles seront parfaitement cuites. Donc ça, c'est le top.
Alors, je vous rappelle que Manuel Mariani vient de vous poser une question à l'instant. Vous la rappelez, s'il vous plaît, Manu?
Oui, alors, quelle est la différence entre la crème d'amande et la frangipane? Si vous avez la bonne réponse, vous nous appelez 01 53 48 3000 avec un super cadeau à gagner.
Alors, on a Assina qui est avec nous au standard. Assina, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour Assina.
Bonjour, je crois que j'ai la réponse. La frangipane, c'est à base de pommes, compote.
Ah, pas du tout, Assina. C'était pas ça.
D'accord.
On a bien parlé d'une galette fourrée à la compote de pommes, mais c'est pas ça la différence entre la.
Alors, si vous pouvez répéter le conseil que vous avez donné à l'instant pour la cuisson des crêpes, j'ai pas entendu.
Oui, alors, donc ce que vous faites, c'est que avant de commencer votre première crêpe, vous allez chemiser ou lustrer votre poêle. Donc vous prenez.
Non, avant cela. Vous avez dit éviter ça et c'est mieux dans une crêpière.
Oui, éviter les poêles avec les revêtements anti-adhésifs parce que c'est pas très bon pour la santé les revêtements anti-adhésifs. Et puis ça ne répartit pas forcément bien la chaleur, c'est pour ça.
D'accord, c'est ça que j'ai pas entendu. Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous, Assina.
Bon week-end, Assina. Alors nous avons Anissa qui est avec nous. Anissa, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Anissa.
Bonjour.
Vous avez la réponse à la question que vous a posée Manuel Mariani?
Oui, tout à l'heure. Donc, il y avait du beurre, de la poudre d'amande et du sucre.
Et alors, quelle est la différence?
Oui, la question, c'est la différence entre la crème d'amande et la frangipane.
La frangipane.
Alors, il y a de la crème. Oui, il y a de la crème pâtissière, me dit ma fille.
Ah, je vois que ça souffle, mais que ça souffle peut-être pas mal.
Oui, ça souffle pas mal. Alors, il y a de la crème pâtissière dans laquelle? Dans la crème d'amande ou dans la frangipane?
Dans la frangipane,
ah,
ma fille.
Oui. Eh bien, c'est la bonne réponse. Alors, est-ce que vous voulez que votre fille choisisse le cadeau ou c'est vous qui choisissez?
Ma fille.
C'est votre fille qui va choisir ? Bon, alors, il y a trois cadeaux. Il y a soit un DVD avec un film documentaire qui s'appelle « À la recherche des femmes chefs ». C'est une formidable virée gastronomique chez les femmes cuisinières, hein, parce que la gastronomie, c'est un univers très masculin. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des vraies grandes chefs qui sont des femmes et qui cuisinent très, très bien. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité. Ou sinon, vous avez un livre qui s'appelle « Le répertoire des sauces » qui a été écrit par Éric Trochon et Brian Lemercier. Il y a 300 recettes de sauces super faciles à faire et vraiment délicieuses. Si vous voulez épater vos amis à la maison en vous faisant passer pour un grand chef, vous pouvez utiliser ce livre. Alors, il y a des sauces salées, sucrées, des sauces modernes, des sauces contemporaines, des sauces traditionnelles. Et puis sinon, il y a le petit futé Paris Gourmand 2020, écrit par notre collègue Salia Adjilani, qu'on retrouve demain d'ailleurs dans Le Monde de Salia. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ?
Alors, elle me dit le livre répertoire.
Le répertoire des sauces.
Oui.
Elle va vous faire la cuisine, votre fille, là, apparemment. Comment elle s'appelle, votre fille ?
C'est elle qui s'appelle Anissa.
Ah, c'est elle, Anissa. Ah oui, d'accord, elle voulait appeler, mais elle était trop timide.
Et maman s'appelle comment ?
Habiba.
Habiba, bien.
D'accord.
C'est un travail de famille, hein, c'est un travail d'équipe. En tout cas, bravo.
Exactement, merci.
Habiba, vous allez rester en ligne, on va prendre vos coordonnées, et puis vous recevrez le livre des sauces d'ici quelques jours.
Voilà.
D'accord, c'est gentil, je remercie l'équipe.
Voilà, ne quittez pas, et puis... Philippe, d'ici la fin de l'émission, s'il nous reste du temps, on peut faire gagner un autre cadeau, hein, si vous voulez. Hein, Philippe.
Alors restez en ligne, Habiba.
Oui, restez en ligne, Habiba.
Non, c'est trop juste. On est trop juste. On n'a pas suffisant d'endroits. Il y a un plat qu'on mange alors dans le sud, hein, le sud de la France. On en mange beaucoup plus souvent, mais pour la chandeleur, on fait aussi des oreillettes et on fait des bugnes.
Oui, les oreillettes ou les bugnes, hein, c'est la même chose. Alors attention, hein, selon les régions, on va dire non, c'est pas la même chose, mais en fait, si, c'est la même chose. Les oreillettes, les bugnes, c'est la même chose. Ça fait partie, vous savez, des fameux 13 desserts qu'on présente à la fin du repas de Noël, hein, dans la tradition provençale. Donc, en fait, bon, ça vient du fait qu'à l'origine, les bugnes ou les oreillettes, comme c'est quelque chose qui demande un petit peu de main-d'œuvre, etc., on en faisait beaucoup à l'avance, et donc il en restait toujours après Noël. C'est
tellement bon.
Ouais, c'est très bon. Et on avait donc pour tradition, comme on en faisait beaucoup d'avance, on continue à en manger jusqu'à l'épiphanie. Mais à l'origine, c'est l'un des 13 desserts servis lors de la veillée de Noël. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Philippe, vous, la liste des 13 desserts, mais...
Non.
Hein, mais dedans, il y a alors, il y a ces 13 desserts qu'on choisit parmi 55 variétés possibles. Hein. Donc, on fait un peu ce qu'on veut selon les familles. Mais bon, c'est pas forcément des gâteaux, hein, parce qu'on peut aussi mettre des dattes, on peut mettre du nougat, on peut mettre des choses. Hein. C'est 13 gourmandises, on pourrait l'appeler. Hein. Voilà, mais ça vient vraiment du sud. Hein. C'est une tradition provençale.
C'est plutôt le sud de la France. Merci d'avoir été avec nous. Samedi prochain, on parlera de la cuisine de Paul Bocuse, voilà, dont on parle beaucoup cette semaine, puisque ça a fuité qu'il a perdu sa troisième étoile
au Michelin. Donc, et du coup, on parlera de recettes de cuisine très traditionnelle et très classique, mais très bonne.
Cuisine bourgeoise, hein, quand même.
Oui, bourgeoise.
Très emblématique de la France, mais c'est une cuisine bourgeoise. On verra ce qu'il nous a laissé. Merci Manu.
Merci d'avoir été Philippe.
Avec nous. On se retrouve donc demain matin avec toute l'équipe du Monde de Salia. Demain, nous partirons à la découverte d'une Algérie moins connue peut-être, hein, en dehors des sentiers battus. Passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.